Frères et sœurs bien-aimés, nous avons là, dans l'évangile de ce jour, un des miracles les plus célèbres, les plus connus de Jésus. Saint Augustin, quand il commente ce passage de l'évangile selon saint Jean, commence par dire « Mais finalement, il y a des miracles en permanence et nous ne les voyons plus. » Certains, peut-être d'entre vous, ont pu voir, s'il n'y avait pas de nuages, il n'y en avait pas à La Roche-sur-Yon, magnifique éclipse de lune, vendredi soir, cette lune rouge-marron, extraordinaire, fait de la nature, et il faudra persévérer pour voir la prochaine, car elle a lieu en 120, 30, je ne sais plus combien, 2120, 130. Mais voyez, ces miracles de la nature, ils sont permanents. Quand nous semons le blé en terre, il va produire l'épi, qui va produire, donc multiplier ce blé semé. Tout cela, nous n'y pensons plus, nous ne voyons plus comment Dieu, par sa providence, dirige ce monde et conduit toutes choses. Il y a là un miracle permanent. Et saint Augustin dit, nous ne voyons plus ces miracles, mais il nous faut pour ça être attentifs, parce que nous avons ce désir de reconnaître l'œuvre puissante de Dieu dans des choses plus rares, dans des miracles plus rares, comme celui d'aujourd'hui que nous avons entendu raconter dans l'Évangile. Il faut peut-être remettre un peu le contexte de ce passage de l'Évangile. Nous sommes là, sur le lac de Tibériade. Vous savez combien Jésus a prêché autour de ce lac. Et quand on va encore dans cet endroit merveilleux, on le voit entouré de montagnes. C'est un lieu absolument extraordinaire et à peu près resté dans l'état où il était du temps de Jésus, à part quelques villes plus grandes comme Tibériade, qui a bien grandi, mais quelque chose près, nous retrouvons à l'état brut ce qu'était le paysage du temps de Jésus. Et là, on peut s'imaginer Jésus qui monte sur la montagne et, comme le raconte saint Matthieu, qui enseigne ses apôtres. Et vous vous souvenez, dans saint Matthieu, ce fameux sermon sur la montagne, que fait Jésus? Il commente la loi. Et à partir de la loi ancienne, il essaye d'en donner l'esprit véritable. Pourquoi le Seigneur a prescrit cette loi? Il veut faire revenir les disciples, ceux qui l'écoutent, aux fondamentaux de la loi, aux raisons profondes de la loi, surtout à celui qui a donné la loi et aux raisons profondes pour lesquelles il l'a donnée. Jésus veut faire passer de cette loi qui dessèche à la loi nouvelle, de cette loi qui était un joug à la loi nouvelle de la grâce, de l'amour révélé en Dieu, de sa miséricorde. Il veut les faire passer à lui-même, Jésus, qui est la parfaite image de Dieu venu parmi nous. Dieu fait chair, venu parmi nous. Et vous l'avez noté, c'est un temps particulier parce que c'est juste avant la Pâque et nous savons combien ce temps de Pâque est un temps de révélation. Il va l'être de manière évidemment suprême au moment où Jésus va instituer l'Eucharistie, donner sa vie sur la croix et ressusciter. Cette Pâque n'est donc pas un événement par hasard qui est indiqué comme ça par l'évangéliste, mais elle veut nous dire qu'il y a là une révélation forte qui prépare à la Pâque ultime du Seigneur. Et puis, dernière chose de ce contexte, nous sommes là au début du chapitre 6 de saint Jean, et ce miracle de Jésus, des pains multipliés, prépare le grand discours que Jésus va faire dans la synagogue de Capharnaüm, où il fait ce discours justement sur le pain de vie. Lui, Jésus, le vrai pain qui donne la vie. Il veut préparer l'âme des fidèles, l'âme de ceux qui sont ici, autour de lui qui l'écoutent, à entendre ces paroles difficiles du pain de vie, mais difficiles certes, mais si fondamentales et si importante, parce que Jésus veut faire passer de cette nourriture qui est une nourriture physique, matérielle, qui se perd, à cette nourriture plus fondamentale de l'Eucharistie, qu'il est lui-même, parce qu'il a le désir de se donner aux âmes pour qu'elles vivent, mais pas qu'elles vivent simplement sur cette terre, mais pour la vie éternelle. Nous passons, vous voyez, par ce miracle de Jésus, de l'Ancien Testament au Nouveau, de l'enseignement de la loi à l'enseignement de la miséricorde et de l'amitié avec Dieu. Dieu nourrit son peuple au désert. Et cela est imprimé profondément dans l'âme des Juifs qui écoutent Jésus, comment Dieu a nourri son peuple pendant 40 ans au désert avec la manne. Ils dépendaient totalement du Seigneur pour leur survie. Et là, Jésus reprend ce geste. Et saint Jean, qui a l'art des détails, parfois nous échappe, mais il dit « il y avait de l'herbe verte à cet endroit ». C'est un endroit semi-désertique, si vous y allez en ce moment, il n'y a pas beaucoup d'herbe verte. Mais par moment, l'hiver, où il y en a, c'est vrai, endroit semi-désertique où il y a de l'herbe verte. Et nous pensons au psaume 22, « Le Seigneur est mon berger sur des prés d'herbe fraîche, il me fait reposer ». C'est là que Jésus veut nourrir son peuple. Comme jadis Dieu au désert, il dit quelque chose de lui. Lui, Jésus, a le pouvoir de donner la vraie nourriture qui nous assure la vraie subsistance. Mais pour cela, vous voyez, le Seigneur attend toujours quelque chose de nous. Il attend que nous lui donnions quelque chose, que nous faisions un acte de confiance, un acte qui veut se donner pour que le Seigneur puisse, à partir de notre pauvreté, de ce que nous sommes, de notre indigence, mais de notre volonté, de notre bon désir, que le Seigneur puisse transformer toute chose. Et il y a là ce garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Et là, c'est amusant parce que les pères de l'Église se délectent à commenter les 5 pains d'orge et les 2 poissons. Je pense à Origène, à saint Augustin. Ils disent, par exemple, les 5 pains d'orge représentent la Torah, les 5 livres du Pentateuch. Et pourquoi sont-ils d'orge et non pas de froment? Oh, les pères, ils ont une explication à tout. Pourquoi? Parce que l'orge, semble-t-il, je ne suis pas un spécialiste, mais a une balle plus serrée sur le grain et beaucoup plus difficile d'enlever la balle qui est sur le grain, alors que le froment, le blé, contraire, a une balle qui est plus légère, qui s'enlève plus facilement et plus accessible, donc le grain de blé, que le grain d'orge. Ils disent, eh bien, voyez, c'est la loi qui est emprisonnée dans ce grain d'orge, il faut dégager la balle, c'est plus difficile. Et là, le Seigneur vient pour nous donner la vraie nourriture, le vrai froment de Dieu, le blé de ce pain pur qu'est le Christ. Et puis, les 2 poissons, alors vous me direz, eh bien, les pères disent, ce sont les prophètes et les psaumes, parce qu'à la dureté de la loi, il y a la douceur, l'encouragement que donnent les prophètes, les psaumes. Et le poisson va donner du goût un peu au repas. Si on n'avait que du pain, ce serait plus fade. Voyez un peu comment les pères reprennent tout cela. En tout cas, nous pouvons dire que Jésus est vraiment cette loi nouvelle, celui qui veut donner la nourriture véritable, pas celle de la loi qui nous emprisonne, cette loi qui pèse comme un joug sur nous, mais cette loi de l'amour, de la douceur. Jésus nous donne la vraie nourriture. Jésus veut finalement préparer les cœurs à ce qu'il puisse le recevoir lui-même, car Jésus est toute la loi, toute la nouvelle alliance. Jésus est toute douceur, Jésus est notre tout, Jésus est le royaume. Si vous êtes allé en Terre Sainte, peut-être vous connaissez ce beau lieu de Dalmanuta où a lieu cette multiplication des pains, et dans la basilique ancienne il y a cette belle mosaïque, je suis sûr vous connaissez tous, vous avez déjà vu représentée, où on voit une corbeille avec dedans 4 pains. Tiens, pourquoi pas 5? Mais non, 4 pains, effectivement. Parce qu'il y a une symbolique, évidemment, dans cette mosaïque ancienne, antique, c'est qu'elle est située juste sous l'autel, et le 5e pain, c'est Jésus lui-même, celui qui veut se donner à nous comme la véritable nourriture. Alors, frères et sœurs, que pouvons-nous tirer de ce texte pour chacun d'entre nous, notre vie spirituelle en ce jour? Comme les Hébreux, nous aussi, nous avons reçu des grâces. Nous aussi, le Seigneur nous a délivrés. Nous aussi, le Seigneur nous a fait passer notre mer rouge. Nous aussi, le Seigneur nous conduit dans le désert de cette vie, vers le paradis promis, vers la terre promise. Oui, le Seigneur nous guide chacun d'entre nous. Et déjà, il a semé dans notre cœur cette semence de grâce et de vie par le baptême. Comment est-ce qu'à partir de cette orge de la grâce semée dans notre vie, nous allons pouvoir déployer tous les talents que le Seigneur nous a donnés, toutes les grâces que le Seigneur nous a données? Comment pouvons-nous entrer plus avant dans ce cœur à cœur avec le Seigneur Jésus? comme le petit garçon de l'Évangile. Il nous faut apprendre à offrir au Seigneur toutes choses, à donner ce que nous avons. Oh, souvent, nous voulons donner au Seigneur ce que nous avons de plus beau. Et c'est bien, nos talents, nos réussites, l'amour que nous avons, notre joie, notre espérance, notre foi, toutes choses bonnes, bien sûr, offrons-les au Seigneur. Mes frères et sœurs, avez-vous pensé à donner au Christ vos faiblesses, vos limites, oserais-je ajouter, vos péchés même, à les offrir au Seigneur, pour que le Seigneur fasse à partir de là toute merveille, que le Seigneur vous transfigure totalement de fond en comble. Est-ce que nous offrons vraiment au Christ toutes choses de notre vie pour que nous nous présentions devant lui dans la simplicité du cœur, dans toute grâce, en toute force, en toute espérance, pour que nous puissions vraiment porter du fruit? Car sous la balle de nos fautes, de nos limites, de nos faiblesses, de nos tiédeurs, de nos péchés même, le Seigneur peut dégager cette balle et faire porter du fruit à toute chose dans notre vie. Oh, ne cherchez pas des choses compliquées, frères et sœurs. Comment vivre ce cœur à cœur avec le Seigneur, la charité qu'il a disposée dans nos cœurs au jour le jour? Eh bien, quand, par exemple, vous supportez votre conjoint, un jour vous n'êtes pas en forme, ou ça vous agace, c'est aussi simple que ça, prendre sur soi. Quand vos enfants aussi ne sont pas tout à fait ce que vous auriez voulu, qu'il faut l'offrir au Seigneur. Quand vous avez à remplir votre devoir d'État au quotidien, alors que vous n'avez pas trop envie, pas trop de courage, à chaque fois que nous revenons aux fondamentaux de la foi, de l'offrande de nous-mêmes, de l'espérance dans le Seigneur Jésus, de la charité surtout, qui peut transfigurer notre cœur, alors nous passons de l'Ancien Testament au Nouveau, nous passons de la loi au Christ pour vivre toutes choses dans le Christ. En somme, nous pouvons, grâce à lui, déployer les dons de Dieu en nous et vivre véritablement dans le Christ. Nous passons, comme le dit Origène, de l'orge des commençants au froment des spirituels et des parfaits. Oui, frères et sœurs, voilà ce que le Seigneur veut pour chacun d'entre nous, une vie profondément eucharistique, pas avec l'orge de l'Ancien Testament, mais avec le froment pur de l'Eucharistie qui fait que nous sommes en lui transfigurés, sanctifiés en toutes choses. Que le Seigneur habite vraiment notre cœur au quotidien pour que nous vivions avec lui ce cœur à cœur, cette intimité avec le Christ. Voilà le but de notre vie chrétienne, un but de sainteté. Une espérance qui est la nôtre, la foi qui est la nôtre, doivent nourrir aussi notre charité dans une union toujours plus intime avec le Christ. Confions tous nos trésors à celle qui est la trésorière du bon Dieu, à la Vierge Marie, elle qui est capable en toutes choses pour chacun d'entre nous de tirer le neuf de l'ancien, de tirer de notre tiédeur la ferveur, de changer les ombres de nos vies en lumière et de nous faire passer de la médiocrité de notre quotidien parfois à une vraie sainteté que le Christ appelle de ses vœux pour chacun d'entre nous. Ainsi soit-il.